السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضي الله عنه،
j'évoquais précédemment Omar radi Allah anhu et j'avais mentionné aussi sa conversion à l'islam. Voici ce que dit Hazrat Muslim Maud radi Allah anhu à propos de sa conversion à l'islam. Il déclare que Omar radiallahu anhu a continué à s'opposer fermement à l'islam. Autrement dit, il s'est constamment opposé à l'islam jusqu'à sa conversion à l'islam. Un jour, il s'est dit « Pourquoi ne pas tuer le fondateur même de cette religion ?» Et dès que cette idée lui est venue à l'esprit, il a pris son épée et il a quitté sa maison pour tuer le saint prophète Mohammed paix sur lui. En cours de route, quelqu'un lui a demandé « Où vas-tu, Omar ?» Il a répondu « Je vais tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Cette personne a ri et a dit « Va d'abord prendre les nouvelles de ta maison. Ta sœur et ton beau-frère ont cru en lui. » Hazrat Omar croyait que c'était un mensonge. L'autre a dit « Va voir de tes yeux. » Omar est rendu chez sa sœur. La porte était fermée. Un compagnon récitait le Saint-Coran à l'intérieur. Il a frappé à la porte et la voix de son beau-frère venait de l'intérieur et demandait « Qui est-ce ?» Omar a répondu « C'est Omar. » Ayant constaté la présence d'Omar et sachant qu'il était un féroce opposant de l'islam, le beau-frère a caché le compagnon qui récitait le Saint-Coran. De même, ils ont caché les pages du Saint-Coran dans un coin, puis ils ont ouvert la porte. Étant donné que Omar avait entendu dire qu'il était devenu musulman, c'est-à-dire que son beau-frère et sa sœur étaient devenus musulmans, il a demandé pourquoi il avait tardé à ouvrir la porte. Son beau-frère a répondu que ce retard était tout à fait naturel. Omar a déclaré qu'une raison spéciale les avait empêchés d'ouvrir la porte immédiatement. « J'ai entendu une voix, disait-il, vous écoutiez les paroles de ce sahabi. » Les polythéistes de la Mecque appelaient le saint prophète Mohammed paix sur lui un sahabi ou un sabéen. Le beau-frère a tenté de cacher la chose, mais Omar s'est mis en colère et il a avancé pour tenter de frapper son beau-frère. Sa sœur est intervenue en raison de l'amour pour son mari. Étant donné que Omar avait déjà levé la main et que sa sœur était soudainement venue au milieu, il ne pouvait pas retenir sa main et il a frappé violemment le nez de sa sœur qui a commencé à saigner. Omar était un homme émotif et voyant qu'il avait frappé une femme, un acte contraire à la pratique des Arabes, et de surcroît, il avait frappé sa sœur, il a tenté de réparer le tort en disant « Montrez-moi ce que vous étiez en train de lire. » La sœur a compris que la tendresse avait gagné son cœur. Et il lui a dit que je ne peux pas remettre ces pages pures entre les mains d'une personne comme toi. Omar a demandé, que dois-je faire en ce cas? Sa sœur lui a dit, il y a de l'eau devant toi, prends un bain. Et c'est là que je pourrai te remettre ces pages. Omar a pris un bain et il est retourné. La sœur lui a remis les pages du Saint-Coran qu'ils écoutaient. Étant donné qu'un changement avait eu lieu en Omar, la tendresse a surgi de son cœur dès qu'il a récité ces versets du Saint-Coran. Quand il a terminé la lecture, il a dit spontanément, « Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. » En entendant ces mots, le compagnon qui s'était caché par peur d'Omar est sorti de sa cachette. Ensuite, Omar a demandé où vit le saint prophète Mohammed bissos à lui ces jours-ci. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de changer de maison en raison de l'opposition à l'époque. Le compagnon a déclaré qu'il se trouvait à la Dar-e Arqam. Omar s'est immédiatement dirigé vers la maison avec son épée nue. La sœur soupçonnait fortement qu'il avait peut-être de mauvaises intentions. Et il la poursuivit en disant, « Par Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas assuré que tu ne feras aucun mal. » Omar a répondu, « Je promets fermement que je ne commettrai aucun mal. » Et Omar s'est rendu sur le lieu de résidence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a frappé à la porte. Le saint prophète Mohammed bissos à lui et ses compagnons étaient assis à l'intérieur et il leur enseignait la religion. Un compagnon a demandé qui est-ce. Omar a répondu, c'est Omar. Les compagnons ont déclaré, au messager d'Allah, on ne doit pas ouvrir la porte de peur qu'il ne sème les troubles ici. Hamza s'était nouvellement converti et il était un soldat. Et il a déclaré, « Ouvrez la porte, je vais voir ce qu'il veut. » Quelqu'un a ouvert la porte et Omar radhiyallahu anhu s'est avancé et le saint prophète Mohammed bissos à lui lui a dit, « Ô Omar, jusqu'à quand vas-tu t'opposer à moi ?» Omar a répondu, « Ô envoyé d'Allah, je ne suis pas venu m'opposer à vous, je suis venu m'asservir à votre personne. » Omar, qui était un farouche ennemi de l'islam une heure auparavant et qui avait quitté sa maison pour tuer le saint prophète Mohammed bissos à lui, est devenu un croyant de haut rang en un instant. Omar n'était pas un des chefs de la Mecque, mais en raison de sa bravoure, il avait une influence positive sur les jeunes. Et quand il est devenu musulman, les compagnons, tout enthousiastes, ont lancé des takbirs à tue-tête. C'était l'heure de la prière. Et le saint prophète Mohammed bissos à lui a voulu accomplir cette prière. Omar, qui avait quitté la maison 2 heures plus tôt pour tuer le saint prophète Mohammed bissos à lui, a de nouveau dégainé son épée. Et il a déclaré, « Comment est-ce possible que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses disciples prient secrètement et que les polythéistes se pavanent à l'extérieur de la Mecque ?» Je vais voir qui nous empêchera de prier dans l'enceinte de la Kaaba. Le saint prophète Mohammed bissos à lui lui a répondu, ces sentiments sont très louables, certes, mais la situation est telle qu'il n'est pas approprié pour nous de sortir. Mais après cela, ils ont accompli la salat dans l'enceinte de la Kaaba, comme cela a été mentionné précédemment. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a déclaré qu'au début de l'islam, seules 2 personnes étaient considérées comme courageuses parmi les musulmans. Il y avait Omar radhiyallahu anhu et le deuxième était l'émir Hamza. Quand ils se sont convertis à l'islam, ils ont déclaré au saint prophète Mohammed bissos à lui que nous n'aimons pas adorer Allah en cachette dans nos maisons. Nous avons droit à la Kaaba. Et il n'y a aucune raison pour ne pas user de ce droit et de ne pas adorer Dieu ouvertement. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui priait à la maison pour éviter les méfaits des mécréants, s'est rendu à la Kaaba pour rendre culte à Dieu. Et Omar, avec son épée dégainée, se trouvait d'un côté et Hamza se trouvait de l'autre. Et c'est ainsi que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a pu accomplir ses prières dans l'enceinte de la Kaaba ouvertement. Lorsque la nouvelle de la conversion d'Omar à l'islam s'est répandue parmi les Quraychites, ils en étaient très furieux et ils ont assiégé la maison de Omar. Quand Omar est sorti, une grande foule s'était rassemblée autour de lui et certains furieux étaient sur le point de l'attaquer. Mais Omar s'est tenu fermement avec beaucoup de courage. Le grand chef de la Mecque, Hans bin Wail, est passé par là et voyant la foule, il a demandé sur un ton autoritaire ce qui se passait. Les gens disaient que Omar était devenu un sabi. Profitant de l'occasion, le chef a déclaré « Eh bien, il n'y a pas besoin de toute cette agitation. J'accorde ma protection à Omar Radutranhu. » Face à cette voix, selon la coutume arabe, la foule a dû se taire et la foule s'est lentement dispersée. Après quelque temps, Omar Radutranhu est resté en paix pendant quelques jours parce que personne ne voulait l'attaquer en raison de la protection offerte par Hans bin Wail. Mais le sens de l'honneur de Omar n'a pas toléré cette situation longtemps. Après quelque temps, il est retourné voir Hans bin Wail et il lui a dit « Je ne veux plus de ta protection. » Omar Radutranhu raconte lui-même que « Après cela, je n'ai cessé de me battre dans les rues de la Mecque. » En d'autres termes, il y avait toujours des bagarres entre lui et les autres, mais jamais Omar n'a baissé son regard devant autrui. Hazrat Muslim Aoud Radhiyallahu déclare « Voyez tous ces farouches ennemis du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais voyez aussi comment ils se sont transformés. Non seulement se sont-ils réformés, mais ils ont atteint un tel niveau dans la spiritualité, un niveau si élevé qu'il était très difficile de les reconnaître. Ils s'étaient complètement transformés, on ne pouvait plus dire que c'était les mêmes personnes. Quand Omar, qui se battait contre l'islam et les musulmans, a eu la chance de se convertir à l'islam, il a apporté un tel changement en sa personne qu'il a commencé à risquer sa vie au profit du monde. Et il s'est engagé au service de l'islam jour et nuit. Il y avait là une méprise, on aurait dû dire qu'il avait risqué sa vie au profit de la religion ou dans l'intérêt de la religion. Le Messie premier à l'islam raconte ainsi l'histoire de la conversion de Omar à l'islam. Il déclare « Jugez les bénéfices apportés par Omar Radutranhu. » Il n'avait pas encore cru en l'islam et il y avait une pause de 4 ans. Allah en connaît très bien le secret. Abu Jahl cherchait quelqu'un qui était prêt à assassiner le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. À l'époque, Omar Radutranhu était très brave, courageux et puissant. Abu Jahl et Omar se sont consultés et ont décidé d'assassiner le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Omar et Abu Jahl ont signé l'accord et ils ont fixé la récompense qu'Omar allait recevoir s'il arrivait à commettre cet assassinat. Voyez le décret de Dieu. Omar Radutranhu souhaitait à une époque tuer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et ce même Omar, après avoir embrassé l'islam, est tombé à martyr. Quelle étrange époque! Quand il a convenu à l'écrit qu'il commettra cet assassinat, il errait la nuit tentant de trouver le saint prophète Mohammed Bissos à lui afin de le tuer. C'est-à-dire, Omar errait durant la nuit pour tenter de trouver le saint prophète Mohammed Bissos à lui afin de pouvoir le tuer. Il demandait aux gens quand et où le saint prophète Mohammed Bissos à lui était-il seul. On l'a informé qu'il se rendait dans l'enceinte de la Kaaba après minuit pour ses prières. Omar était très content de cette nouvelle. Il est parti se cacher dans l'enceinte de la Kaaba. Après quelque temps, il entendait une voix venant du néant qui disait « La ilaha illallah ». C'était à la voix du saint prophète Mohammed Bissos à lui. En entendant cette voix, et en sachant que cette voix se rapprochait de lui, Omar s'est caché davantage. Il avait l'intention de décapiter le saint prophète Mohammed Bissos à lui avec son épée quand le saint prophète se trouvera dans sa prosternation. Dès son arrivée, le saint prophète Mohammed Bissos à lui a commencé à prier. Le Messie premier d'Islam déclare, Omar lui-même raconte ce qui s'est passé. Il déclare que le saint prophète Bissos à lui pleurait tellement dans ses prosternations que j'ai commencé à trembler. L'envoyé d'Allah disait même « Ô mon Seigneur, mon âme et mon corps se prosternent devant toi. » Omar radhiyallahu anhu déclare « J'étais tout ému d'entendre ces prières et l'épée est tombée de ma main en raison de la vérité. » Vu l'état du saint prophète Mohammed Bissos à lui, j'ai compris qu'il était véridique et qu'il va certainement avoir du succès. Mais la nafsi ammara est très pernicieuse. Elle nous pousse à commettre le mal. Lorsque le saint prophète Bissos à lui est parti, après avoir prié, je l'ai suivi. Il a entendu le bruit de mes pas. La nuit était sombre. Le saint prophète Bissos à lui a demandé « Qui est-ce ? » J'ai répondu « Omar ». Il a dit « Oh Omar, tu ne me quittes pas de jour comme de nuit. » À ce moment-là, j'ai senti l'âme du saint prophète Mohammed Bissos à lui et mon âme a senti qu'il allait me maudire. J'ai supplié le saint prophète Mohammed Bissos à lui de ne pas me maudire. C'était le moment de ma conversion à l'islam. Dieu m'a aidé à devenir musulman. C'était là un récit du Messie premier Islam. Et il a relaté un autre incident de ce genre quelque temps après. Les points sont les mêmes, mais la conclusion qu'il tire est différente. Le Messie premier Islam déclare « Avant de se convertir à l'islam, Omar radhiyallahu anhu avait l'habitude de rencontrer Abu Jahl. Il est dit qu'une fois Abu Jahl avait prévu d'assassiner le saint prophète Mohammed Bissos à lui. Et il avait également fixé quelques sommes comme récompense. Omar a été sélectionné pour commettre cet assassinat. Il a donc aiguisé son épée et il a cherché une occasion. En fin de compte, Omar a su que le saint prophète Bissos à lui se rendait à la Kaaba au milieu de la nuit pour ses prières. Il s'est caché dans l'enceinte de la Kaaba et il a entendu une voix qui annonçait « La ilaha illallah », une voix qui venait du néant et qui se rapprochait de lui. Le saint prophète est entré dans la Kaaba, il a accompli ses prières. Omar disait qu'il pleurait tellement dans ses prosternations que je n'avais plus le courage de manier mon épée. Quand le saint prophète Bissos à lui a terminé sa prière et il s'en est allé, je l'ai suivi. Il a entendu le bruit de mes pas et il m'a demandé « Qui est-ce ?» Omar a répondu « C'est Omar ». Sur quoi il a déclaré « Oh Omar, tu ne me quittes pas de jour comme de nuit ». Suite à cette déclaration du saint prophète Bissos à lui, j'ai senti qu'il allait me maudire. C'est pourquoi j'ai dit « Je ne vous persécuterai plus à partir d'aujourd'hui ». Chez les Arabes, le respect d'une promesse est très important. Le saint prophète Mohammed Bissos à lui y a cru. Mais en fait, le temps de Omar était venu. Ces points sont différents du récit précédent. Le saint prophète, paix soit sur lui, a compris que Dieu ne le laissera pas partir à la perdition. Omar est finalement devenu musulman. Ensuite, il a mis fin à ses amitiés avec Abu Jahl et d'autres opposants, et il a établi une nouvelle fraternité à leur place. Il a rencontré Abu Bakr et d'autres compagnons, et il n'a jamais pensé à ses relations d'antan. Dans un autre récit, le Messie promet l'Islam raconte, avec quelques différences, ce même incident de la conversion de Omar à l'Islam. Le Messie promet l'Islam déclare que « Vous avez peut-être entendu parler du récit de l'intention de Omar d'assassiner le saint prophète Mohammed B.S. lui. Abu Jahl avait annoncé parmi son peuple que quiconque tuera le saint prophète Mohammed B.S. lui méritera de grandes récompenses et de grands honneurs. Omar avait conclu un accord avec Abu Jahl avant de se convertir à l'islam et il a accepté d'assassiner le saint prophète Mohammed B.S. lui. Il cherchait l'occasion propice. Après enquête, il a appris que le saint prophète, paix soit sur lui, se rendait à la Kaaba à minuit pour ses prières. Considérant que c'était un bon moment, Omar s'est caché dans la Kaaba, dans la soirée. À minuit, le son de la ilaha illallah venait du néant. Omar avait l'intention de tuer le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsqu'il sera en prosternation. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a commencé à prier avec beaucoup d'émotion dans ses prières. Et il a loué Dieu dans ses prosternations tant et si bien que le cœur de Omar battait à la chamade. Tout son courage avait disparu et sa main meurtrière s'est affaiblie. C'est ainsi que le Messie promet l'Islam a décrit ici l'adoucissement de Omar. Après les prières, le saint prophète, paix soit sur lui, est parti et Omar l'a suivi. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé qui le suivait. Et il a su que c'était Omar. Il a déclaré, « Oh Omar, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner ?» Craignant la malédiction du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Omar a déclaré que « J'ai renoncé à vous tuer. Ne me maudissez pas. » Omar avait l'habitude de dire que c'était la première nuit quand l'amour de l'islam a pénétré dans son cœur. J'ai présenté trois passages différents du Messie promet l'islam. L'un est de janvier 1901, le deuxième d'août 1902 et le troisième de juin 1904 ou peut-être de juin 1907. Mais en tout cas, dans ces trois passages, le Messie promet l'islam a évoqué la tentative d'assassinat dans l'enceinte de la Kaaba. Peut-être qu'après cela, Omar s'est retrouvé sous l'emprise de son nafs et qu'il est sorti pendant la journée et qu'il y a eu cet incident concernant son beau-frère et sa sœur, l'incident que l'on relate souvent. Mais en tout cas, le Messie promet l'Islam a relaté le même récit trois fois et il a également mentionné la nafs et Amara. Il se peut que Omar s'était retrouvé sous l'emprise de sa colère et qu'il était sorti de nouveau pour tenter d'assassiner le saint prophète Mohammed B.S. à lui. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'incident concernant sa sœur et son beau-frère ou la tentative d'assassinat durant la nuit, Omar avait eu cette intention suite à l'incitation d'Abu Jahl et la promesse de sa récompense. Le Messie promet l'Islam déclare: on dit d'Abu Jahl qu'il était pharaon, mais à mon avis, il était pire que pharaon. Avant de mourir, pharaon avait annoncé que je crois en ce qu'ont cru les enfants d'Israël. Mais Abu Jahl, quant à lui, n'a pas cru jusqu'à la fin. C'était lui la source de tous les méfaits à la Mecque. Il était très arrogant et il était un égoïste. Et il était assoiffé de grandeur et d'honneur. Son nom d'origine était Amr, et ses deux Omar étaient tous deux originaires de la Mecque. La sagesse de Dieu a attiré un Omar et le deuxième était malheureux. Son âme a brûlé en enfer, et Omar a abandonné son entêtement et il est devenu roi. Ibn Omar relate que lorsque Omar ibn Khattab s'est converti à l'islam, le saint prophète Mohammed lui a touché à la poitrine 3 fois et a prié en ces termes. « Oh Allah, élimine toute hostilité de son cœur et remplace cette hostilité par la foi. » Le saint prophète Mohammed a répété cette prière à 3 reprises. Comme nous l'avons constaté avant sa conversion à l'islam, Omar était très hostile envers les musulmans. Mais sa conversion à l'islam s'est avérée être une source de victoire et de salut pour les musulmans. Abdullah bin Masoud déclare à ce sujet que, avant la conversion d'Omar, nous n'avions jamais rendu culte à Allah ouvertement. Abdurrahman bin al-Harith relate quant à lui que Omar avait dit « La nuit, quand j'ai embrassé l'islam, j'ai pensé « Qui parmi les habitants de la Mecque est le plus hostile envers le saint prophète Mohammed Pessoa Salui ?» Je souhaitais l'informer que je me suis converti à l'islam. Je me suis dit qu'il s'agissait certainement d'Abu Jahl. Le matin venu, je suis parti chez Abu Jahl et j'ai frappé à sa porte. Abu Jahl est venu me voir et il m'a dit « Oh mon neveu, bienvenue, qu'est-ce qui t'amène ?» Omar déclare que je lui dis que je suis venu l'informer que je crois en Allah et en son messager et que j'ai confirmé ce que le saint prophète Mohammed a apporté. Omar déclare que Abu Jahl m'a fermé à la porte nez et il a déclaré qu'Allah te détruise et qu'Allah détruit ce que tu as apporté. Elle était à les paroles d'Abu Jahl. Ibn Omar relate. Lorsque mon père Omar s'est converti à l'islam, il a demandé aux gens qui avaient l'habitude de répandre le plus de rumeurs parmi les Qurayshites. On a informé qu'il s'agissait de Jamil bin Muammar Jumhi. Omar relate qu'il est parti voir Jamil bin Muammar de grand matin et je l'ai suivi, dit Ibn Omar. Je regardais ce que faisait mon père. J'étais jeune, mais je comprenais ce que je voyais. Ibn Omar relate que quand Omar a rencontré ce Jamil, il lui a dit « Oh Jamil, sais-tu que je me suis converti à l'islam et que je suis entré dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Ibn Omar relate, Or Allah, il n'avait pas encore répété cette parole que Jamil est sorti entraînant son manteau. Et Omar l'a également suivi. J'ai suivi mon père jusqu'à ce que Jamil se tienne à la porte de la Kaaba. Jamil a crié tout fort, Ô Quraishite, ces derniers étaient assis dans leur rassemblement respectif autour de la Kaaba. Et tous se sont tournés vers Jamil. Jamil a déclaré, « Écoutez, Omar bin Khattab est devenu un sahabi. » Le narrateur disait que Omar disait derrière lui, « Il ment parce que moi j'ai accepté l'islam et j'ai témoigné qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. » Les Quraishites ont attaqué Omar et il s'est battu contre eux, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de leur tête. Le narrateur déclare que lorsque Omar était fatigué, il s'est assis et les gens se sont mis devant lui. Omar disait, « Faites ce que vous souhaitez. Je jure par Allah que si nous sommes 300 hommes, nous laisserons la Mecque pour vous ou vous quitterez la Mecque pour nous. » Autrement dit, nous serons libres de faire ce que nous souhaitons si nous sommes 300 individus à avoir embrassé l'islam. Le narrateur ajoute qu'ils étaient dans cet état quand un vieux Qurayshite est passé par là. Il portait un nouveau vêtement yéménite ainsi qu'une chemise brodée. Il s'est tenu tout près de ces gens et il a demandé « Que se passe-t-il ? » Ils ont répondu « Omar est devenu un sabi. » Il a dit « Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce sujet ? » Un homme a choisi une voie pour lui-même. Que souhaitez-vous ? Pensez-vous que les Banu Adi bin Ka'ab vous remettront un des leurs de cette manière ? Laissez-le. » Le narrateur déclare « Par Allah, les assaillants ont immédiatement abandonné Omar. » Ibn Omar, le fils d'Omar, déclare que après avoir émigré à Médine longtemps plus tard, j'ai demandé à mon père, « Oh mon père, qui était l'homme qui, le jour de votre conversion à l'islam à la Mecque, avait chassé les gens qui se battaient contre vous ?» Omar bin Khattab a répondu, « Oh mon fils bien-aimé, il s'agissait de As bin Wa'il Sahmi. » Il y a aussi un récit tiré du Sahih al-Bukhari. Ibn Omar relate, « Une fois, Omar était assis à la maison dans la peur. Sur ce, Abu Amr As bin Wa'il est venu. Il portait un tissu à motif et une chemise à bordure en soie. Il appartenait à la tribu Banu Saham, qui était notre allié à l'époque de l'ignorance. As a dit à Omar, « Comment vas-tu ?» Omar a répondu, « Ton peuple pense me tuer parce que je suis devenu musulman. Personne ne pourra te toucher, » a répondu As bin Wa'il. J'étais rassuré. As est parti et il a rencontré la population. La vallée de la Mecque était pleine de gens. As leur a demandé quelle était leur intention. Ils ont répondu, « Nous partons voir le fils de Khattab qui a abandonné sa religion. » As leur a dit, « Ne partez pas chez lui. » En entendant cela, les autres sont retournés. La déclaration disant que Omar avait peur ne semble pas vraie. Elle est contraire à la nature de Omar. Il était peut-être inquiet et le narrateur croyait qu'il avait peur. Selon un récit cité plus haut, après un certain temps, Omar avait refusé la protection d'As bin Wa'il. On en trouvera mention un peu plus loin. Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb écrit ceci à propos d'As bin Wa'il Sahmi dans le contexte de la conversion de Omar à l'islam. Il déclare que avant la conversion de Omar à l'islam, quelques musulmans étaient persécutés. On dit que Omar aurait été persécuté après sa conversion à l'islam si As bin Wa'il n'avait pas annoncé qu'il lui avait accordé sa protection. As bin Wa'il était l'une des personnes les plus respectées de parmi les Qurayshites. Il appartenait à la tribu Banu Saham. Voici son nom et sa généalogie. As bin Wa'il bin Hashim bin Saïd bin Saham. Il est mort mécréant avant la migration. Omar, quant à lui, était membre de la tribu des Banu Radi. Et les Banu Radi étaient les alliés des Banu Saham. En raison de cet accord d'amitié et de soutien, As bin Wa'il Sahmi a considéré que c'était son devoir moral d'aider Omar. Comme je l'ai dit plus tôt, Omar Aradutranhu avait rejeté la protection offerte par As bin Wa'il. Omar lui-même raconte à ce sujet que je ne souhaitais pas voir un musulman être tabassé et que je ne le sois pas. Je pensais que cela n'avait pas d'importance et j'ai subi le même sort que les autres musulmans. J'ai attendu que les autres se rassemblent dans la Kaaba. Ensuite, je suis parti voir mon oncle As bin Wa'il et je lui ai dit, « Écoutez-moi. » Il m'a dit, « Que dois-je écouter ? » Umar a déclaré, « Je vous retourne votre protection. » As a dit, « Oh mon neveu, ne fais pas cela. » Omar a déclaré, « Il en sera ainsi. » As a répondu, « Comme tu le souhaites. » Omar déclare que j'ai refusé sa protection et après cela, je n'ai cessé d'être persécuté jusqu'à ce qu'Allah honore l'islam. Mohammed bin Ubayd relate ceci. Je me souviens que nous ne pouvions pas prier dans la Baytullah jusqu'à la conversion de Omar à l'islam. Lorsque Omar a embrassé l'islam, il a combattu les infidèles jusqu'à ce qu'il nous abandonne et nous avons pu commencer à prier librement. Abdullah bin Masoud relate que nous avons commencé à vivre dans la dignité quand Omar est devenu musulman. Les persécutions qui ont suivi étaient les mêmes, mais ces musulmans ne considéraient pas celles-ci comme des persécutions par rapport aux précédentes. L'histoire démontre d'ailleurs que Omar également a dû endurer ces persécutions. Abdullah bin Hisham relate quant à lui, « Nous étions avec le saint prophète Mohammed bin Sassan, lui. Il tenait la main de Omar, radiallahu anhu. Omar lui a dit, « Ô messager d'Allah, il a déclaré, « Ô messager d'Allah, vous m'êtes plus cher que tous, sauf mon âme. » Le saint prophète Mohammed bin Sassan lui a déclaré, « Non, je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Ta foi ne sera pas complète tant que tu ne m'aimes pas plus que ton âme. » Ceci est un point très important. Omar a déclaré, « Par Allah, à présent, vous m'êtes plus cher que mon âme. » Le saint prophète Mohammed bin Sassan lui a déclaré, « Oui, c'est vrai, Omar. » Tel était l'état de sa foi. Abdullah bin Abbas relate ainsi la migration de Omar radhiyallahu anhu à Médine. Il déclare, Ali bin Abi Talib m'a relaté que je ne connais aucun des muhajirines qui n'a pas migré secrètement sauf Omar bin Khattab. Omar bin Khattab a pris son épée. Il a placé son arc sur son épaule. Il a pris ses flèches dans la main et il est parti dans l'enceinte de la Kaaba en tenant une lance. Lorsqu'il a décidé à émigrer, les chefs Qurayshites étaient dans la cour de la Kaaba. Il a fait 7 tours de la Kaaba avec dignité. Ensuite, il s'est arrêté à la Maqam Ibrahim et il a prié sereinement. Puis, il s'est approché de chaque groupe un par un et il leur a dit « Que vos visages soient meurtris, que vos nez soient dans la poussière. Quiconque souhaite que sa mère le perde, que ses enfants soient orphelins et que sa femme soit veuve, eh bien qu'il me rejoigne dans cette vallée. » Ali déclare que personne n'a suivi Omar à l'exception de quelques musulmans faibles. Et il leur a fourni des informations et il les a guidés. Ensuite, il a continué son chemin. Il n'y a que ce seul récit de Ali sur la migration ouverte d'Omar. Mais les biographes ont des opinions différentes à ce sujet. Un certain Mohammed Hussein Haykal a écrit une biographie de Omar. Il a présenté l'argument selon lequel le saint prophète Mohammed bin Sassan lui avait ordonné aux musulmans de quitter la Mecque discrètement afin que les opposants ne le sachent pas et de peur qu'il ne crée des obstacles et ne les harcèle davantage. Comment Omar a-t-il pu désobéir à ce commandement clair du saint prophète Mohammed bin Sassan lui? Et selon Tabaqat ibn Sa'd et ibn Hisham, Omar avait migré secrètement comme les autres musulmans. Cependant, si le récit de Ali est valide, de quelque manière que ce soit, il est possible que Omar ait fait cette annonce à un moment donné et qu'il n'avait pas migré à ce moment-là. Il s'était tenu debout dans la Kaaba. Il avait annoncé au chef qu'il avait l'intention de partir et qu'il pouvait tenter de l'arrêter. Mais il n'était pas parti. Ensuite, quand il avait l'intention de partir et quand le programme s'est fait, eh bien, il l'a fait discrètement. En tout cas, cet argument de Haykal a du poids. Comme je l'ai dit, Tabaqat ibn Sa'd et ibn Hisham disent également la même chose. Il semble que Omar, radiallahu anhu, comme les autres musulmans, a dû émigrer discrètement selon les instructions du saint prophète Mohammed lui. Il n'était pas possible de migrer ouvertement en raison des conditions à la Mecque. Ainsi donc, jusqu'à la conquête de la Mecque, tous ceux qui ont émigré ont préféré le faire discrètement. Si le récit de Ali est authentique, il s'agit peut-être d'une action individuelle, mais les preuves tentent de démontrer que ce récit n'est pas vrai. Bara bin Azib relate quant à lui que le premier des Muhajirines qui est venu nous voir était Moussa bin Umair. Il appartenait à la tribu Banu Abduddar. Ensuite, il y avait Ibn Makhtoum. Il était aveugle et il était des Banu Fahr. Ensuite, Omar bin Khattab est venu avec 20 individus. Quand nous l'avons demandé sur le Saint-Prophète, mais soit lui, il a déclaré qu'il est derrière moi. C'est-à-dire que le Saint-Prophète, mais soit lui, allait venir après un certain temps. Peu de temps après, le Saint-Prophète est venu accompagné d'Abu Bakr. Si ce récit est vrai, eh bien, il y a une forte possibilité que Omar ait pu évoquer sa migration à un moment donné lors d'une rencontre dans l'enceinte de la Kaaba. Et il avait annoncé tout passionnément qu'on pouvait tenter de l'arrêter. Mais il a migré discrètement plus tard parce que 20 personnes l'avaient également accompagné. Quoi qu'il en soit, Allah sait le mieux. Quand Omar est arrivé à Médine, il a logé chez Rifa bin Abdul Munzir à Quba. Quba, comme nous le savons, est situé dans les hauteurs de Médine, à environ 5 km de Médine. Il s'y trouvait certaines familles des Ansar, et une des familles les plus connues était celle d'Amr bin Auf. Le chef de cette famille était Kulthum bin Hitham. Le saint prophète Mohammed lui avait logé chez lui lorsqu'il était arrivé à Quba. Il existe divers récits sur les liens de fraternité établis avec Omar. Selon un récit, le saint prophète avait établi ce lien entre Omar radiallahu anhu et Abu Bakr. Mais ces liens de fraternité ont été établis à deux reprises, une fois à la Mecque et ensuite à Médine après l'émigration. À la Mecque, le saint prophète, paix soit sur lui, avait établi ce lien entre lui et Ali bin Abi Talib. Et il avait établi un lien entre Abu Bakr et Omar radiallahu anhu. Cependant, ce sont deux cas distincts de l'établissement de ces liens de fraternité. À Médine, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, avait établi des relations entre les Muhajirines et les Ansar. Selon un récit, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi des relations entre Omar bin Khattab et Ouham bin Saïda après la migration. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah a établi ce lien de fraternité entre Omar bin Khattab et Idban bin Malik. Selon un autre récit, il avait établi ce lien entre Omar radhiyallahu anhu et Mu'az bin Afra. Selon Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb, ce lien de fraternité a été établi entre Omar et Idban bin Malik. Voici un récit au sujet du lancement de l'adhan. Mohammed bin Abdullah bin Zayd relate ceci de son père. Il déclare, un matin, nous nous sommes rendus auprès du saint prophète Mohammed bin Sassa lui et je lui ai relaté mon rêve. J'ai relaté ce récit lorsque j'ai fait mention d'Abdullah. Comme il est question de Omar ici, je vais présenter une partie de ce récit, ou bien un autre récit. Le saint prophète Mohammed bin Sassa lui a déclaré que ce songe est certainement vrai. Or, accompagné de Bilal, il possède une voix plus forte que la tienne. Répète-lui ce qu'on t'a enseigné dans le rêve afin qu'il en fasse l'annonce. Abdullah bin Saïd déclare que lorsque Omar bin Khattab a entendu la voix de Bilal invitant à la prière, Omar s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed bin Sassa lui entraînant son châle. Il a déclaré au messager d'Allah, Je jure au nom de celui qui vous a envoyé avec la vérité. J'avais vu en songe les mêmes paroles que cet appel. Le rapporteur déclare que le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a répondu que toutes les louanges appartiennent à Allah. La véridicité de cette parole s'est retrouvée renforcée. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos. À l'époque du saint prophète Mohammed B.S.A. lui, il y avait un compagnon qui se nommait Abdullah bin Zayd. Allah, le Très-Haut, lui avait enseigné l'adhan à travers un rêve. Et le saint prophète s'était appuyé sur son rêve pour introduire l'adhan parmi les musulmans. Une révélation coranique ultérieure a également confirmé ce rêve. Omar déclare à ce sujet, « Dieu m'avait enseigné le même appel, mais je suis resté silencieux pendant 20 jours, me disant qu'une autre personne avait déjà relaté cela au saint prophète Mohammed B.S.A. lui. » Étant donné qu'un compagnon avait déjà relaté cela au saint prophète, il est resté silencieux, car il n'avait plus besoin d'en faire mention. Le saint prophète, paix soit sur lui, fait référence à cela dans un hadith. Il déclare que le croyant est parfois informé directement, parfois il est informé par l'intermédiaire d'autres personnes. Je continuerai ces récits la prochaine fois, Inch'Allah. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le fait que nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du mois du Ramadan. Ne considérez pas ce vendredi comme le dernier vendredi du Ramadan. Ce vendredi doit nous ouvrir de nouvelles voies à l'avenir. Nous devons tenter de poursuivre, même après le mois du Ramadan, les actions auxquelles nous sommes consacrés au cours du Ramadan. Et nous devons continuer les bonnes œuvres que nous avons pu accomplir au cours de ce mois. Nous devons au contraire faire davantage, sinon le mois du Ramadan sera inutile pour nous. Le Ramadan sera inutile pour nous si nous ne maintenons pas ces vertus et ces changements purs que nous avons accomplis et si nous ne progressons pas dans ces domaines. Vendredi dernier, j'avais attiré votre attention vers le Daroud et l'Istighfar. Ces pratiques ne doivent pas se limiter qu'au mois du Ramadan. Il ne faut pas qu'une fois ce mois terminé, nous nous plongeons tellement dans les affaires de ce monde que nous oublions complètement les prières et l'Istighfar. J'avais également déclaré que nous devons toujours garder cela à l'esprit. À une époque où le Dajjal utilise de nouvelles ruses, la majorité des gens se retrouvent piégés dans ces fastes de ce monde. Certains de nos jeunes et nos enfants en sont également affectés. En pareille situation, nous devons beaucoup prier pour qu'Allah nous préserve de ces attaques sataniques et du Dajjal. Il faut que nous attachions nos enfants à nous-mêmes et que nous établissions une relation particulière avec nos enfants et que nous informions nos enfants à propos de la personne de Dieu ainsi que des merveilleux enseignements de l'islam. En faisant naître une certitude parfaite dans les cœurs de nos enfants, il faut les attacher d'une telle façon à la personne de Dieu qu'aucune de leurs actions, qu'aucune de leurs œuvres ou qu'aucune pensée de leur part n'aille à l'encontre de la volonté de Dieu et des enseignements de Dieu. Il faut que ces enfants aient des réponses à toutes les questions qu'ils se posent sur ce monde et concernant ces fléaux. Il ne faut pas qu'ils soient influencés par d'autres par manque de réponses. Les réponses que nous leur apportons doivent les protéger des tribulations. En cela réside la garantie de l'amélioration de la vie de nos descendants et de leur survie. Il s'agit de la meilleure méthode pour préserver nos descendants de toutes sortes de fléaux. Mais cela se produira uniquement lorsque nous établissons nous-mêmes la plus haute norme de foi et de certitude, et quand nous atteindrons la norme de celle d'un véritable croyant. Cela sera possible uniquement lorsque notre relation avec Dieu sera solide. Cela sera possible lorsque nos salats et nos actes d'adoration seront à la hauteur. Et cela sera possible lorsque nous allons comprendre nos responsabilités quant à la raison pour laquelle nous avons prêté allégeance au Messie premier des salams. Il s'agit d'une très grande responsabilité qui nous incombe. Nous devons renforcer notre foi et nous devrons constamment être vigilants quant à nos actes. Et cela doit être un moyen pour nous pour préserver nos générations futures. Le niveau d'obscénité et de distraction futile que l'on constate aujourd'hui est peut-être sans précédent. Elles ont atteint tous les foyers par l'intermédiaire de la télévision et d'Internet. Dans le passé, ces dangers étaient à l'extérieur, mais maintenant, ce péril se trouve à l'intérieur des maisons. Les enfants visionnent des choses en cachette et on ne sait pas ce qu'ils sont en train de regarder. Ainsi, il faut faire preuve d'une grande vigilance. Ceux qui sont les descendants des anciens ou des premiers Ahmadis, ou des Ahmadis qui ont rejoint la communauté en prêtant eux-mêmes allégeance et qui ont accepté l'imam de l'époque et qui étaient disposés à consentir à tout sacrifice pour préserver leur foi et qui n'ont cessé de le faire, eh bien, les descendants de tous ces Ahmadis doivent toujours se rappeler qu'ils doivent accorder préséance à leur foi sur les choses mondaines. Et ils doivent accomplir leur introspection, et c'est à cette condition qu'ils pourront se protéger et protéger aussi leurs descendants. Quelle que soit la famille à laquelle l'on appartient, qu'il s'agisse de la famille d'un pieux aîné de la communauté ou de son descendant, cette filiation familiale et la piété de cet aïeul ne donnent aucune garantie qu'Allah continuera de bénir ses descendants ou qu'il sera toujours satisfait de leur personne. L'action de chaque personne est nécessaire pour gagner le plaisir d'Allah. Ce sont nos actions qui nous sauveront. Aucun lien, aucune appartenance familiale ne pourra sauver qui que ce soit. Par conséquent, nous devons toujours prier en ce sens. Nous devons aussi surveiller nos faiblesses religieuses. Nous devons également prier pour que nos enfants et pour que nos générations futures progressent davantage dans la voie de la religion que dans les affaires mondaines. Nous prions beaucoup pour le progrès matériel. Nous devons prier davantage pour le progrès religieux. De même, ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya de leur propre chef doivent également faire en sorte que leurs pensées et leurs actions soient en phase avec cela, afin que nous-mêmes et nos générations futures puissent mériter le salut. Au cours des jours restants du mois du Ramadan, suppliez Dieu afin qu'il préserve notre foi et celle de nos descendants. Priez pour que nous puissions progresser spirituellement et que le niveau de nos actes d'adoration reste élevé même après le mois du Ramadan, et que nous puissions établir une relation solide avec Dieu et que nous soyons à l'abri des pièges du Dajjal. Les biens de ce monde ne doivent pas être notre objectif. Qu'Allah nous accorde au contraire des bienfaits religieux et mondains qui nous pousseront à être reconnaissants envers Allah et qui nous pousseront à être toujours prosternés devant Dieu et qui feront de nous ses adorateurs parfaits. De même, je vous demande également de prier à foison pour être préservé de l'épidémie du coronavirus qui s'est répandue dans le monde et afin d'être récipiendaire de la miséricorde divine. Priez également beaucoup pour ces Ahmadis qui résident dans ces pays dans lesquels ils font face à une vive opposition. Ces Ahmadis dont la vie a été rendue difficile. Priez beaucoup pour ces Ahmadis pour qu'Allah leur facilite la situation. Les Ahmadis du Pakistan doivent accorder une attention particulière aux aumônes et aux supplications, à la fois durant ces jours et également par la suite. Inch'Allah, ces supplications et ces efforts pour gagner le plaisir d'Allah vont contrecarrer les ruses et les complots de l'ennemi. Il faut également réciter abondamment ces prières Rabbi kulli shay'in khadimuka Rabbi fahfazni wansurni warhamni Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Il faut répéter à foison ces prières. Mais gardez également à l'esprit que le simple fait de réciter ces prières du bout des lèvres ne sert à rien. Certains m'écrivent pour me demander quelles prières à réciter. Tant que nous n'embellissons pas nos solats, tant que nous ne respectons pas les exigences de nos solats, le simple fait de réciter des prières du bout de lèvres ne servira à rien. Même après le mois du Ramadan, il faut respecter les exigences de la solat comme nous les avons respectées durant ce mois. C'est à cette condition que nous pourrons être récipiendaires de la miséricorde et de l'aide de Dieu. Priez également pour être à l'abri de toutes sortes de fléaux. Qu'Allah nous permette de profiter pleinement de ces 4 ou 5 derniers jours de ce mois béni du Ramadan et que nous puissions perpétuer ces bonnes œuvres après le mois du Ramadan. Gardez également à l'esprit que plus nous allons élargir le spectre de nos prières, plus nous allons profiter des grâces divines. Il faut également prier continuellement pour que toutes les difficultés auxquelles font face les Ahmadis disparaissent. Inconsciemment, cela permettra également de créer une atmosphère d'amour, de fraternité, et cela va favoriser nos relations. Nous allons profiter des grâces divines, mais dans la pratique, cela va aussi favoriser l'amour et l'entente entre nous. N'oubliez pas non plus la Oumma musulmane dans vos prières. Qu'Allah la préserve de la mauvaise direction qu'elle a empruntée et du péril de ce monde et de l'au-delà auquel elle s'est exposée en rejetant l'imam de l'époque. Priez pour l'humanité dans son ensemble, qu'Allah guide l'humanité sur le droit chemin et qu'Allah préserve l'humanité de sa colère. Notre devoir à nous est de prier et de continuer à prier pendant ce mois du Ramadan et après le Ramadan. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens.
Alhamdulillah.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر